Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique avec Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire, Mandelotte, en Gévaudan. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Alors Nelly, qu'est-ce qui se passe? Tu es seule aujourd'hui? On va où?
Alors je ne suis pas seule, on va rejoindre Barbara, une collègue du musée, et on va rester à Mende pour une visite un petit peu particulière. Aujourd'hui on ne va pas te faire visiter de châteaux, de villages, de chapelles, mais des œuvres d'art, des tableaux et des sculptures. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende-et-Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Ah mais on est au musée du Gévaudan. Bonjour Claire.
Bonjour.
Claire, on recherche Barbara, tu sais où elle est?
Elle est à l'exposition temporaire là. Au deuxième étage, 300 ans de talent, l'expo qu'on partage avec les musées de Béziers. Je pense qu'elle est là-bas. Suivez-moi, je vous y amène.
On prend l'escalier?
Allez, on va prendre l'escalier. Un très bel escalier, Nelly.
Oui, c'est un escalier du XVIIe siècle, vraiment caractéristique des hôtels particuliers que de riches bourgeois vont se faire construire dans la partie basse de la ville.
Voilà, on arrive à l'exposition temporaire. Merci Claire.
Oui, on va visiter cette exposition qui se termine dans quelques mois. Donc c'était l'occasion de réannoncer une nouvelle fois cette exposition. Et on espère bien consacrer une future émission à l'exposition permanente du musée qu'on n'a pas encore visitée. La dernière fois qu'on était là, c'était pour faire une visite du musée qui était en travaux. Donc on peut rappeler, le musée du Gévaudan a ouvert en octobre 2022. Et donc aujourd'hui, un coup de projecteur sur cette très belle exposition temporaire avec Barbara, qui est médiatrice au musée du Gévaudan, qui a particulièrement travaillé sur cette exposition. Et donc on va la découvrir ensemble.
Et bonjour Barbara, merci d'être avec nous, nous donner un peu de ton temps.
Bonjour, merci beaucoup.
Nelly, peut-être avant de parler tableaux, sur la globalité de cette exposition temporaire.
Alors cette exposition, c'est une exposition d'envergure sur les grands genres de l'art européen du XVIe au XXe siècle. Donc il y a à peu près 45 œuvres exposées ici. La majorité de ces œuvres proviennent des musées de Béziers. Et quelques œuvres du musée du Gévaudan sont aussi exposées. Et donc, on va se balader dans cette exposition qui donc s'articule autour de quatre grands genres de la peinture. Pas que de la peinture, on va le voir avec Barbara. Et donc, on vous propose aujourd'hui de découvrir chacun de ces grands genres à travers une œuvre que Barbara a choisi de nous faire découvrir.
Alors justement, Barbara, quels sont ces quatre grands genres qu'on va retrouver ici?
Oui, alors les quatre grands genres, ce sont le portrait, le paysage, la nature morte et la peinture d'histoire dans ses dimensions sacrées et profanes.
Et pourquoi ces quatre grands genres?
Parce qu'en fait, la production picturale, artistique, de manière générale en Europe, de la Renaissance jusqu'à nos jours, elle a été organisée, structurée autour de ces quatre grands genres qui ont vraiment été même théorisés en fait par les grands artistes du passé, surtout au XVIIe siècle. Et ça a vraiment marqué toute la production artistique quasiment jusqu'au XXe siècle.
Et donc pour commencer, on va s'attarder sur quel premier genre?
Sur l'art du portrait. Donc c'est la première salle qui est consacrée à l'art du portrait, le portrait qui débute durant l'Antiquité, si ce n'est un peu plus tôt. Et donc on va voir ici, comme le disait Barbara, des œuvres qui sont plutôt des époques modernes et contemporaines. Donc on va le voir à travers une œuvre que Barbara a choisie, un portrait particulier puisqu'il s'agit d'un autoportrait. Donc Barbara va nous le décrire et va nous le présenter.
Oui, en fait, il y a énormément de portraits différents dans cette exposition et j'ai choisi celui-là à la fois parce que c'est un des tableaux que l'équipe du musée préfère au sein de cette exposition, parce que c'est un portrait de très grande qualité et également parce qu'il permet d'apprécier justement le genre de l'autoportrait. Donc c'est une sous-catégorie du portrait en quelque sorte. Voilà. Donc il s'agit d'un autoportrait d'un artiste gardois qui s'appelle Adolphe Perrault. Il a été peint en 1878. C'est un peintre académique français donc du 19e siècle qui était aussi conservateur des musées de Nîmes et professeur dans les écoles de dessin de cette même ville. Et ici, il s'est représenté de manière assez sobre sur un fond gris-vert. Il nous regarde de face avec un air un peu inquiet, un peu mélancolique, presque triste aussi. Il a une veste grise. Il n'a pas ses attributs de peintre, il n'a pas sa palette, il n'a pas ses pinceaux, il n'a pas son chevalet, etc. Il s'est simplement représenté finalement comme s'il était face à lui-même dans son miroir. C'est un portrait qui est de très belle qualité parce que la peinture en fait est très fine. Il y a énormément de détails, très réaliste, presque photographique finalement. Et d'ailleurs, c'est un portrait qui s'inscrit à l'époque où la photographie se développe et elle permet justement aux artistes aussi de travailler plus facilement en faisant poser des modèles moins longtemps. Et finalement, les deux genres, la photographie et la peinture, finissent par dialoguer alors qu'on avait peur que la photographie remplace la peinture.
On sait pourquoi il se présente de manière assez sobre comme ça ?
C'est probablement une volonté de sa part. Est-ce qu'il a réalisé ce portrait, par exemple, pour étudier la figure humaine à travers sa propre image, justement mettre l'accent sur une expression du visage particulière qu'il souhaitait étudier ? C'est quelque chose que les artistes pratiquaient énormément, c'est l'étude de tête, l'étude d'expression humaine. Ça faisait partie de l'enseignement académique des beaux-arts pour ensuite pouvoir peindre des peintures plus complexes avec des expressions variées. Les artistes avaient besoin d'étudier les figures, les visages, les expressions de personnages différents. Et finalement, un artiste est toujours son meilleur modèle pour étudier la figure humaine.
Finalement, Barbara, est-ce que chaque portrait se ressemble ou il y a des différences notables entre les portraits ?
En fait, il y a énormément de types de portraits différents au cours de l'histoire de l'art. Les bases du portrait moderne, elles sont posées par les artistes à la Renaissance, qui ont tendance à représenter des personnages importants, des personnages de premier plan au sein des sociétés de l'époque. Et puis petit à petit, le portrait, il va s'ouvrir, se démocratiser à tout type de représentation, tout type de personnes, et même aussi à des personnes qu'on avait beaucoup plus de mal à représenter, les enfants par exemple, les personnes les plus pauvres, des personnes qui n'étaient pas forcément très belles aussi, ou même des animaux. On a un très beau portrait de bélier dans cette exposition que je vous invite à venir voir. Le portrait, il a toujours servi quand même à valoriser les gens, donc à mettre en valeur des personnages importants, mais parfois il sert aussi à se moquer. On a aussi quelques caricatures dans cette exposition. Nous invite aussi à réfléchir le portrait sur la manière dont on représente une personne. Est-ce que c'est toujours le visage qui permet de représenter la personne ? Est-ce que ce sont aussi ses vêtements, son corps, sa posture, sa sensibilité, etc., etc. C'est autant de questions finalement que pose cette exposition à travers toutes les œuvres qui sont accrochées ici.
Allez, on va changer de genre, donc on va changer de salle.
On avance dans l'exposition et donc on arrive dans la deuxième salle qui est consacrée à la deuxième thématique qui explore le thème du paysage. Et là, tu le vois, Ludo, donc on a une série d'œuvres, de paysages, que ce soit urbain, marin, montagnard. On a différents styles de paysages. Donc le paysage, comme le portrait, apparaît durant l'Antiquité. Il va être un peu délaissé au Moyen-Âge, il va réapparaître un petit peu à la fin du Moyen-Âge, et surtout ensuite, l'âge d'or du paysage, c'est le 19e, avec tous les mouvements qu'on connaît, le romantisme, l'impressionnisme, etc. Donc on va redécouvrir ce genre à ce moment-là. Et on va présenter, Barbara va nous présenter une œuvre assez particulière, une fois de plus, qu'elle aime beaucoup, qui est très intéressante.
Voilà, là on n'est pas sur un cadre habituel.
Oui, j'ai choisi deux grands panneaux décoratifs qui sont en fait des œuvres préparatoires qui ont été peints par un artiste qui s'appelait René Billa, mais qui avait choisi de se faire nommer Richard Burchtal, et qui en fait ici répond à une commande pour un décor au sein de l'abbaye de Fontfroide près de Narbonne. Une abbaye qui est un lieu absolument magnifique que je vous invite à aller visiter si vous ne le connaissez pas. C'est une abbaye qui avait été rachetée par une famille, les Fayet, au tout début du XXe siècle. Et cette famille était très, très férue d'art. Donc elle avait invité plusieurs artistes à décorer en fait à la fois la Bastiale avec des nouveaux vitraux et puis les appartements privés en fait de la famille. Et donc Richard Burgstall a fait partie des artistes sélectionnés. Et il a notamment décoré un ancien dortoir de moines qui avait été transformé en salon de musique. Et il a choisi des thèmes musicaux donc pour peindre des verrières musicales. Et donc ici on est face à deux grands panneaux qui sont justement les œuvres préparatoires à ces verrières et qui sont conservées donc au musée de Béziers. Alors ce sont des œuvres très poétiques, oniriques, qui nous font voyager très loin puisqu'elles nous amènent en Inde. Effectivement en fait ce sont des décors qui sont inspirés d'un opéra que l'épouse de Richard Burgstall avait composé sur des thèmes de la mythologie hindoue. Donc on retrouve des grands dieux de l'Inde, Shiva, Surya, le dieu du soleil, tout en haut de ces panneaux, qui descendent comme ça sur des mondes, en fait, et qui les créent par émanation. Alors on a des peintures très colorées, avec énormément de volutes, de courbes et de contre-courbes, et on a des mondes qui apparaissent comme des songes, comme des rêves, comme des visions. Hein, des grands palais, des grandes architectures qui sont presque végétales aussi. On a d'autres divinités qui apparaissent, le dieu Ganesh, par exemple, avec sa trompe d'éléphant. On a des divinités qui dansent sur des calices floraux. On a des chevaux ailés aussi qui accompagnent ces divinités dans leur création. Donc c'est entre la peinture de paysages réalistes et une ouverture complète sur l'imaginaire, sur la mystique aussi et la spiritualité de pays lointains qui certes nous font voyager assez loin de la Lozère, mais qui voilà, sont aussi des sources d'inspiration importantes.
Ça ne devait pas être habituel de retrouver un thème oriental dans une ancienne abbaye à l'époque ?
Non, ce n'était pas forcément habituel et en même temps, il y avait des courants qui traversaient la société européenne, en fait, dès le 19e siècle et encore au 20e siècle, des courants spirituels qui s'intéressaient justement aux spiritualités orientales et qui cherchaient des formes de syncrétisme entre les mystiques chrétiennes et spiritualités orientales comme le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Ça donnait lieu à des courants comme la théosophie. Et Burgstall était très très inspiré par ces courants-là. Il s'en nourrissait énormément et ça a nourri aussi son œuvre.
Alors pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir, tu peux nous parler du format de ces toiles ?
Oui, ce sont des grands panneaux donc d'à peu près 2 mètres qui sont de forme cintrée au niveau supérieur puisqu'en fait c'était destiné donc à devenir des vitraux encore une fois qui venaient s'insérer entre les murs hein, de l'abbaye. Ils sont peints à la détrempe, c'est-à-dire que ce sont des pigments colorés qui sont mélangés avec de l'eau et de la colle. Donc c'est une peinture qui est assez légère, hein, qui n'est pas brillante comme de l'huile, voilà, et qui sert surtout finalement à préparer des œuvres, encore une fois, des décors qui sont ensuite transférés sur verre.
Ça a été transféré sur verre du coup ou pas du tout ?
Oui, tout à fait. Richard Burgstall, c'était un autodidacte. À la base, il était pianiste, passionné par la musique, comme je l'ai déjà dit. Et finalement, il s'est découvert un talent pour le dessin et la peinture. En lien avec ses inspirations musicales, il s'est formé seul et il s'est même formé au vitrail, justement, pour les besoins de l'abbaye de Fontfroide. Donc il a créé une manufacture, enfin un atelier, il a recréé un atelier de vitrail en région parisienne. À Bièvre, et il a produit donc des vitraux lui-même.
Peut-être qu'on peut faire le lien avec l'exposition permanente du musée, notamment avec Gallière, qui a fait quand même énormément de paysages aussi. Donc certains, on peut les découvrir dans l'exposition, mais voilà, Gallière a produit énormément de paysages, notamment lausériens, et à la fin de sa vie, il continue en fait à peindre depuis son lit, depuis son atelier parisien, des paysages de Lozère, parce qu'il va rester attaché à la Lozère, à son pays natal toute sa vie. Et il dira qu'il peint ses paysages de Lozère de mémoire, en fait, hein, de souvenirs. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, ces paysages sont presque abstraits, en fait, c'est ça. Et sont très émouvants, sont très beaux.
Oui, et ce qui est intéressant aussi avec Gallière, c'est qu'il a collectionné des œuvres extra-européennes, et notamment japonaises. Et dans nos collections, on a des paysages du Japon, des estampes japonaises qui représentent des paysages lointains japonais que Gallière justement appréciait. Donc ça fait aussi le lien voilà, avec ces paysages mythiques de l'Inde peints par Burgstall ici.
Allez, troisième genre, troisième salle.
Alors, on se déplace vers la troisième salle, troisième thématique consacrée à la nature morte. On le voit, là, on entre dans une salle qui est un peu plus intimiste, un peu plus réduite. On se retrouve donc face à quelques œuvres qui représentent des natures mortes pour l'essentiel picturales, mais pas que. Et donc, je laisse la parole à Barbara qui a choisi une œuvre un peu particulière ici.
Oui, alors effectivement, dans cette petite salle, on a des natures mortes très classiques, dans le style qu'ont mis en place les grands artistes du passé, notamment les Hollandais, les Flamands du XVIIe siècle. Mais on a aussi des natures mortes qui sont un petit peu plus modernes. Et j'ai choisi de vous présenter un tableau peint par une grande dame de la peinture, une femme qui avait beaucoup de talent, Marie Laurencin, dont on a la chance ici d'accueillir donc un très beau bouquet de tulipes, très onirique. Hein, c'est un bouquet de tulipes qui est dans un vase blanc, et qui semble flotter comme ça sur le ciel, un ciel un peu chargé entre des gris, des bleus, des verts. On ne sait pas trop où on est dans ce tableau finalement, si on est dans un appartement ou ailleurs. Mais c'est à l'image en fait de l'univers de Marie Laurencin, qui est un univers très onirique, avec souvent des personnages féminins très gracieux, avec des peaux très blanches, qui dansent dans des costumes aux teintes pastel, avec des animaux un petit peu chimériques comme des licornes ou ce genre de choses. Et dans ces natures mortes, on retrouve justement ce type d'atmosphère. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est d'évoquer la symbolique de la tulipe, parce qu'aujourd'hui, la tulipe nous paraît être une fleur tout à fait anodine, qu'on retrouve sur nos ronds-points au printemps. Mais c'est une fleur qui a une histoire, en fait, très, très intéressante, et sans cette histoire, peut-être que Marie Laurencin n'aurait pas peint ce tableau. Effectivement, la tulipe, elle est arrivée en Europe au XVIIe siècle par le biais des Hollandais qui l'ont importée de Turquie. À la base, c'était une fleur donc complètement exotique, orientale. Et quand cette fleur est arrivée en Europe, eh bien, elle a beaucoup séduit. Et finalement, on s'est mis à en planter, à en cultiver. Et il y a eu toute une mode de la tulipe en Europe, alors en Hollande surtout, mais même en France. Et la tulipe a commencé à atteindre des prix de plus en plus élevés, voire faramineux. Et il y a toute une bulle spéculative qui a été créée autour de la tulipe. Un seul bulbe de tulipe, par exemple, pouvait atteindre le prix de 2 maisons bourgeoises à Amsterdam. On s'arrachait les bulbes de tulipe, voilà, c'était vraiment devenu un symbole de luxe absolu. Et donc les Hollandais, quand ils peignaient des tulipes sur leur nature morte, de manière très, très naturaliste, eh bien, ils évoquaient justement à la fois cet exotisme et ce luxe. Et finalement, cette bulle spéculative, elle n'a pas pu tenir, elle a explosé. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent, en fait, dans cette histoire-là. Beaucoup de fortunes ont été perdues. Et finalement, la tulipe est devenue un symbole de vanité, finalement. Un symbole d'attachement excessif aux choses matérielles, terrestres. Et on a fini par trouver la tulipe sur des tableaux représentant des vanités, c'est-à-dire des memento mori, des souviens-toi que tu vas mourir et que le temps passe et qu'il faut s'occuper de choses un peu plus spirituelles et en vue de l'après-vie.
Marie Laurencin, qui est une figure majeure du milieu artistique parisien du début du XXe siècle, c'est ça ?
Absolument. Marie Laurencin, elle a fréquenté tout l'avant-garde artistique de son temps. C'était une femme assez mondaine qui fréquentait tout l'avant-garde artistique parisienne de son temps et qui travaillait aussi pour le monde du spectacle. Elle a réalisé beaucoup de costumes pour des ballets, des décors, etc. Et elle fréquentait beaucoup d'artistes comme Guillaume Apollinaire, avec qui elle a eu une liaison, le poète Guillaume Apollinaire. Et elle connaissait aussi Victorin Galière. Voilà, effectivement, ils ont exposé ensemble, assez loin de chez nous, au Venezuela, à Caracas, en 1946. Comme quoi, cette exposition nous fait sans cesse voyager.
Et ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est, on l'a pas dit en introduction, mais cette exposition porte une attention particulière aux femmes artistes. En fait, on va retrouver plusieurs artistes femmes dans l'exposition. Ça fait aussi un joli clin d'œil à Jeanne Bourillon-Tourné, une lausérienne de cœur, on va dire, qui a toute sa place dans le musée du Gévaudan.
Quatrième salle qui est consacrée, Nelly, au sacré et au profane.
Tout à fait. On va, là, à nouveau, on est dans une salle à une... Chaque salle a son ambiance particulière et donc là on a une salle qui évoque l'iconographie profane et sacrée, donc peinture religieuse et peinture profane. Et donc pour finir cette visite et pour évoquer le thème de la peinture d'histoire qui est un genre très, très important hein, dans l'histoire de l'art, on a choisi une œuvre particulière, une sculpture pour terminer cette visite parce qu'il n'y a pas que des tableaux dans cette exposition.
Absolument, j'ai choisi une petite terre cuite qui représente un faune versant du vin dans une coupe. Alors je l'ai choisi non seulement comme l'a dit Nelly parce qu'il n'y a pas que des peintures dans cette exposition et que c'est important donc de valoriser aussi les quelques sculptures qu'on a la chance d'accueillir. Je vous inviterai à venir voir par vous-même la très belle tête d'homme au nez cassé de Rodin qui est dans la première salle de l'exposition. Mais ici, je voulais aussi valoriser un artiste qui est très important pour la ville de Béziers. Il s'appelle Jean-Antoine Ingelbert et c'est un sculpteur donc, de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui est mort à Paris en 1933 et qui s'est formé en fait, sur les chantiers avec son père à Béziers. Et il est monté ensuite se former à Paris à l'école des Beaux-Arts. En fait, Ingelbert, on ne le connaît pas et pourtant on le connaît bien parce qu'il a réalisé énormément de sculptures qui sont aujourd'hui dans l'espace public français. Quasiment toutes les grandes villes de France ont des sculptures d'Ingelbert dans leur paysage, même si, encore une fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc ici, c'est une petite terre cuite, comme je disais, qui représente un faune, c'est-à-dire un être hybride, hein, mi-homme, mi-bouc, qui est en train de tenir une outre remplie de vin, qu'il essaie de verser délicatement, autant que faire se peut, dans une petite coupe qu'il tient. Donc c'est une sculpture qui est une œuvre d'étude, en fait, une œuvre de travail. Alors on n'a pas forcément d'œuvre définitive qui lui soit associée. Mais voilà, c'est une œuvre intéressante parce qu'elle nous permet aussi d'évoquer justement comment travaillent les sculpteurs. Hein. Souvent, ils font d'abord des petits modèles comme ça, en plâtre ou en terre cuite, qu'ensuite, parfois en cire aussi, qu'ensuite ils vont donc reproduire en taille définitive, en marbre ou en bronze, etc. Ici, donc, c'est un thème mythologique hein, qui est abordé, un être de la mythologie gréco-romaine, un faune qui appartient au cortège du dieu Dionysos Bacchus, le dieu du vin, de la fête, et qui donc nous invite ici, alors à travers le fait qu'il verse cette grosse outre de vin dans une petite coupe, qui nous invite en fait à la fois, certes, à profiter des plaisirs de la vie tout en faisant un peu attention à être tempérant, modéré dans voilà, notre manière de profiter de ses plaisirs. Et ça fait écho d'ailleurs à deux œuvres qui sont à côté en fait, de cette sculpture, notamment un très très beau tableau que je vous inviterai à venir voir, une grande bacchanale peinte par Jacques Stella, un artiste classique français du milieu du XVIIe siècle, qui représente là aussi des membres du cortège de Bacchus Dionysos en train de festoyer, de verser du vin, etc., et qui, en état d'ébriété quelque peu notable, eh bien, nous invite là encore à faire attention à nos plaisirs.
Nelly, on a une actualité pour cette visite radiophonique ?
Oui, donc l'exposition, cette belle exposition est visible jusqu'au 5 janvier 2025, donc hâtez-vous, parce que dans 2 mois, vous n'aurez plus la possibilité de la visiter. Possibilité de découvrir l'exposition en visite accompagnée le 2 janvier à 14h. Donc voilà, il n'y en aura pas d'autres d'ici là. Donc, mais la visite en autonomie est très bien aussi. Et puis, donc, prochaine exposition temporaire du musée sera consacrée à l'ours. Donc l'ours entre mythe et réalité, donc, qui commencera en avril pour la réouverture du musée pour l'année 2025.
Un scoop dans cette émission, donc l'ours pour la prochaine exposition temporaire. Est-ce qu'on a une petite anecdote pour Brillant Société, Nelly ?
Toujours, évidemment. Est-ce que tu sais qu'une œuvre exposée ici n'a pas failli arriver jusqu'à nous ?
Je passe un appel, je vais appeler Barbara.
Voilà.
Oui, effectivement, on a eu quelques sueurs juste avant d'ouvrir l'exposition de la Vernière. Début juillet, puisque le tableau d'Horace Vernet, là, qui représente un portrait de Bélier, que j'ai très vite évoqué tout à l'heure, a failli ne pas être exposé dans les salles, puisqu'au moment d'ouvrir la caisse du tableau, eh bien, même s'il avait été magnifiquement restauré, on a découvert un petit insecte à l'intérieur. Et quand c'est comme ça, on s'affole un peu. Et donc, le tableau a subi ce qu'on appelle une anoxie, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans une poche sans oxygène pour tuer tout nuisible éventuel. Et pouvoir ensuite être exposé dans les salles et être sûr qu'il n'y ait pas d'invasion d'autres insectes par la suite. Voilà, ce sont des mesures de conservation que les musées prennent quand ce genre de cas se présente.
Eh bien, merci beaucoup, Barbara, pour toutes ces belles informations que tu nous as données et d'avoir participé à cette émission. Peut-être qu'on se reverra pour une prochaine émission.
Mais oui, merci à vous et avec grand plaisir.
Nelly, on va aller où, nous, le mois prochain ?
Alors, le mois prochain, on ne va pas aller très loin. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que certains vont faire leur cinéma. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.